Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour la mener captive.
Eh bien aujourd'hui, on va parler de gestion de l'eau en compagnie de deux personnes, Philippe Catonnet, qui est le maire de la Fare, et Valérie Badiou. Alors, Philippe et Valérie, bonjour.
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 Alors Philippe, vous êtes maire de la Fare, mais vous êtes aussi président d'une association.
Non, alors je suis président de la commission locale de l'eau.
Ah voilà, d'accord.
Du SAGE Loiramont, donc le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau.
Et Valérie, elle est...
Valérie est notre technicienne.
D'accord.
En charge des aspects techniques.
Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'eau, mais côté Haute-Loire.
Oui.
D'accord. Alors bon, c'est vrai qu'on est dans le thème, là on parle beaucoup de l'eau hein, en ce moment, après une année de sécheresse, on voit que les nappes phréatiques ont baissé à certains endroits. Cette gestion de l'eau, c'est compliqué à faire ?
C'était excessivement compliqué, du fait d'une histoire où la Haute-Loire n'a jamais manqué d'eau. Donc nous n'avons jamais été en peine d'avoir de l'eau. Donc, du coup, on est un petit peu surpris par ce manque d'eau, d'où la mise en place d'une gestion de l'eau qui est a priori pas naturelle pour nous à l'heure présente.
Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à... Enfin, il y a même encore certains coins de la Haute-Loire où le manque d'eau n'est pas flagrant. Hein.
Oui, c'est vrai, mais c'est très, très localisé. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés qu'on a au niveau de nos études, c'est qu'on a plusieurs types de vallées, et d'une vallée à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes comportements au niveau pluviométrie. Donc c'est vrai, mais globalement, on peut noter que depuis 2015, et le seul piézomètre qu'on a pour l'attester concernant les réserves d'eau potable, c'est qu'il y a un piézomètre qui est installé à Chasse-Puzac sur la nappe d'eau souterraine de Chasse-Puzac, est en baisse depuis 2015.
D'accord. Et vous avez recensé combien il y a de nappes d'eau en Haute-Loire ?
Alors ça, c'est une grande question.
D'accord.
On est incapable de le faire.
Okay.
À l'instant. Pour l'instant, on a démarré une étude qui s'appelle l'étude de la masse d'eau souterraine des monts du Devèze, justement pour identifier et pour comprendre le phénomène de la masse d'eau et des masses d'eau et des nappes phréatiques, parce qu'on est dans un système... qui est un système volcanique. Il y a eu plusieurs éruptions, donc il y a des cônes stromboliens, il y a des mares, il y a un certain nombre de choses, et trouver de l'eau, on a des nappes qui sont superposées, un petit peu comme un plat de spaghettis, si on peut dire. Voilà, donc on a des nappes identifiées, il y a des nappes en dessous, donc c'est quelque chose qui est très excessivement compliqué à maîtriser.
Oui, alors justement, quand on donne la météo, souvent... la météo de l'Haute-Loire, souvent on nous annonce qu'il pleut beaucoup plus sur le Vivarais. Vous avez remarqué ça, vous aussi ?
Alors, sans chiffres, je ne peux pas vous donner cette information.
Non, mais...
Mais globalement, ça vient des vents portants et de la montagne. Donc c'est vrai qu'il y a des zones, mais d'une vallée à l'autre, je vous dis franchement, on peut avoir des grosses différences de pluviométrie. Alors, on a installé et on est en train d'installer un certain nombre de pluviomètres pour mieux appréhender secteur par secteur ce qui se passe effectivement au niveau de la pluviométrie.
Alors peut-être que c'est Valérie qui va répondre là, parce qu'alors bon, on a parlé des problèmes, mais quelles sont les solutions ?
Ben, vous avez...
Non, mais je voulais répondre à une des solutions, une des premières solutions importantes. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Je vous entends très bien.
Et ce sur quoi on travaille actuellement, c'est d'améliorer la connaissance. Philippe Cassonnet va certainement l'expliquer, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de grosses difficultés. Donc, on a une connaissance qui n'est pas suffisante pour arriver à gérer la ressource. Donc, on est en train d'instrumenter notamment les nappes d'eau souterraines pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, quelle est la quantité d'eau qui arrive, comment elle circule, où elle sort et est-ce qu'elle se renouvelle, est-ce qu'on a un stockage, une recharge suffisante de ces nappes d'eau souterraines.
D'accord. Et on a noté un gros déficit là, d'eau, en fait, de manque d'eau sur la Haute-Loire.
Oui, alors je vais vous donner des chiffres parce que j'aime bien parler de chiffres.
D'accord.
Le seul instrument de mesure qu'on ait actuellement avec un historique assez long, c'est un piézomètre qui est installé à Chasse-Puisac sur la nappe phréatique de Chasse-Puisac. Et depuis 2015, il baisse. Et en gros, globalement, on a baissé de quasiment 4 mètres.
Ah oui, c'est énorme.
Donc c'est totalement énorme. Alors, la recharge se fait essentiellement en hiver et essentiellement avec la neige.
Il y en a point.
Donc, vous comprenez bien que ces derniers temps, on n'a pas été vernis au niveau de la recharge.
Pas trop, non.
Et par exemple, les pluies qu'on voit ces derniers jours, qui ont quand même été relativement intéressantes, on en fait monter la nappe de Chasse-Puisac que de 4 cm.
Ah oui, d'accord. Donc, il y a un gros déficit.
Il y a un déficit important, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que, bon, on en parle. Est-ce qu'il... Alors, ben, nous, on a eu près de chez nous, puisque sur le puits de Dôme, il a fallu que des citernes viennent charger de l'eau à Craponne pour les descendre sur Dor, Arlin, qui n'avaient plus d'eau, quoi.
Oui, et ça a été la même chose en Haute-Loire, et entre autres, ma commune, la commune de la Farge,
ah, oui,
qui permet aussi sur un de ces réseaux. Ouais.
D'accord. Oui, parce que justement, vous êtes. On a beaucoup parlé à une époque du barrage de Serge de la Farge, hein, puisque là, il était vraiment question aussi d'eau, et vous êtes bien placé, vous, pour parler de ça, en fait. Hein.
Oui, alors, juste un petit mot sur Serre de la Farge. Serre de la Farge, c'était un barrage qui était prévu pour écréter les crues.
D'accord.
Vous voyez, les phénomènes ont un petit peu évolué.
Oui.
Donc, le sujet au jour d'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de crue d'ailleurs, hein, mais
oui,
le sujet aujourd'hui, c'est plus de trouver de l'eau et surtout de comprendre sur quoi on est assis. En fait, on a une masse d'eau du Devèze, 850 km² qui dessert en eau potable plus de 100 000 personnes. Donc c'est une source vraiment très très importante et qu'on connaît très peu. Comme je vous le disais, un seul point de mesure à Chasse-Puisac. Donc on a lancé une étude qui s'appelle « Connaissance des eaux souterraines des monts du Devèze », où on a installé plusieurs piézomètres de la pluviométrie, on mesure des débits. Donc c'est une étude qui est lancée sur 4 ans pour mieux cerner nos capacités souterraines d'eau potable.
Alors, oui, justement, alors bon, on parle de... Il manque d'eau. Alors, est-ce qu'aussi, il faut que les gens s'en rendent compte et peut-être l'économiser un petit peu plus, l'eau, pas forcément laver sa voiture avec l'eau du robinet, mais peut-être avec l'eau de récupération. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, moi, je pense, hein, je ne sais pas, je ne suis pas trop dans l'histoire, là, mais peut-être ça aussi, c'est important de dire aux gens, attention, l'eau, on en manque, de ne pas faire n'importe quoi, quoi.
Et vous êtes parfaitement dans l'histoire, hein, pour être très clair. En fait, et vous mettez le doigt sur un point très important, il va falloir qu'on gère l'eau tous à nos différents niveaux. Et au niveau personnel, oui, de l'eau de récupération pour arroser son jardin, ça sera quand même mieux que d'aller tirer de l'eau du réseau d'eau potable. Après, on peut se poser des questions sur l'utilisation dans les lots des WC, qui pourrait très bien être de l'eau de pluie. Pour l'instant, c'est pas autorisé, mais voilà, peut-être que la législation finira par changer.
Oui, parce que si on parle de réseau d'eau, alors le peu que j'en connais, moi, il y a quand même des réseaux séparatifs, hein, qui vont dans les... comment dirais-je, où on traite l'eau, quoi. Donc, en fait, il y a de l'eau qui n'y va pas, et puis il y a de l'eau trop qui est perdue, quand même.
Oui, mais ceci étant dit, l'eau perdue, alors il faut moduler un petit peu ce point de vue parce que elle va quand même dans les milieux.
Voilà, c'est donc, ce que je voulais. Ouais, c'est ce que vous voulez que nous disiez.
Dans les priorités.
Oui.
Excusez-moi.
Mais c'est ce que je voulais un peu, oui, savoir. C'est, en fait, l'eau, on dit qu'elle est perdue, mais elle n'est pas perdue puisqu'elle repart dans la nature, en fait.
donc, on a besoin, si vous voulez, en termes de priorité dans la gestion de l'eau, la première priorité, c'est l'eau potable. La deuxième priorité, c'est les milieux. Puis après, la troisième chose, c'est les usages, qu'ils soient agricoles, industriels ou touristiques. Voilà notre priorité de gestion d'eau.
Oui, parce qu'il y a des... Bon, si on parle de l'agriculture, il y a des choses qui ont besoin de beaucoup d'eau. Alors, bon, ça, moi non plus, je suis pas un agriculteur né, mais il me semble, quand on était plus jeune, on n'avait pas beaucoup de champs de maïs chez nous. Et maintenant, on a des champs de maïs, et on sait que les champs de maïs sont friands d'eau. Hein.
Oui, vous mettez encore une fois le doigt là où ça fait mal. Effectivement... Les conditions d'exploitation font qu'on utilise pour le bétail beaucoup, beaucoup de maïs. Du coup, on voit chez nous fleurir du maïs à 100 mètres d'altitude qu'on n'a jamais connu en étant enfant et qui, de fait, est consommateur d'eau. Donc, c'est un vrai problème et c'est une vraie problématique. Et bon, il y a des discussions en cours avec Yannick Fialip là-dessus. Effectivement, je lui ai posé la question. D'autant plus que si vous circulez sur le coin de Langeac-Brioude, etc., il y a beaucoup de champs, il y a des arrosages qui se font en plein été par des températures importantes. Alors, quand vous passez dessous en vélo, c'est super, vous êtes au frais, mais je ne suis pas sûr que le rendement soit parfait pour arroser le maïs. Voilà. Bon, je pense que simplement, pour tout vous dire, des habitudes, il faudrait qu'on modifie nos habitudes. Ça serait beaucoup plus performant par exemple, d'arroser la nuit. Mais oui. Ça demande une organisation différente et moi, je ne suis pas non plus au fait des affaires agricoles pour pouvoir juger quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse évaporation de l'ordre de 80%.
Oui, alors, on comprend que, en fait, c'est pas la gestion de l'eau, c'est pas quelques personnes, en fait, c'est tout le monde qui peut participer à cette gestion de l'eau, hein, parce que si tout le monde fait un effort, on peut retrouver quand même des choses qui iront un petit peu mieux.
Absolument d'accord avec vous, mais c'est l'effort de tout le monde, oui, et puis c'est pas la peine de stigmatiser. A priori, on a plutôt l'impression de tomber à pas raccourci sur les agriculteurs. Les pauvres, ils ont suffisamment de problèmes à gérer. Donc c'est tous ensemble qu'on doit gérer ces problèmes.
Oui, non, mais on ne tombe pas à bras raccourcis sur les agriculteurs, attention, hein, non, parce que...
Non, mais je parle pas de notre discussion, mais de manière générale, on a tendance à les montrer du doigt, et encore une fois, ils ont plein de choses à faire, et c'est pas nécessairement les plus consommateurs en eau.
Oui, et puis, de toute façon, il faut bien que les bêtes boivent. Oui, c'est vrai qu'une vache, ça boit 100 litres par jour, ça fait un petit peu, quoi, mais bon... Alors, dans le temps, il y avait des réserves d'eau, il y avait des puits, il y avait des choses, mais il y a certains puits qui se tarissent, donc ça devient un peu compliqué, quoi, aussi. Hein.
Alors, ça, c'est vrai. Alors, ceci étant dit, une vache boit entre 100 et 120 litres d'eau par jour en période estivale, là, c'est vrai. Mais savez-vous combien un individu consomme d'eau en moyenne sur la France ?
Ah, j'ai aucune idée.
Environ 140 litres.
Ouais, voilà, donc... Il y a beaucoup plus d'hommes que de vaches, hein, quand même, je pense.
Voilà, donc 140 litres, on peut se poser la question, parce qu'on va boire quoi ? On va boire 2 litres, allez, soyons généreux, 3 litres par jour. Qu'est-ce qu'on fait du reste ?
D'accord.
Ok, donc c'est un vrai problème. Donc vous voyez que ce problème, il est à tous les niveaux.
D'accord.
Et directement, nous, en tant qu'individus, on est aussi responsables de la consommation d'eau.
Donc on a compris que vous travaillez sur ces problèmes, mais bien sûr ça va pas se résoudre en 15 jours ou un mois, hein, ça va être sur des mois, sur des années peut-être, mais déjà je crois que ce qu'il faut c'est essayer de faire prendre conscience aux gens, voilà, que l'eau, ben, c'est pas de l'or mais presque.
Alors vous avez parfaitement raison, et donc la communication est excessivement importante, d'ailleurs à ce sujet, pour que les gens prennent conscience de l'or qu'on a sous nos pieds avec cette masse d'eau du Devez, là, on a créé un chemin pédagogique qui va s'inaugurer début de l'automne, septembre ou octobre, et justement pour que tous les collégiens puissent faire le tour de ce chemin où on montre ce que c'est que la géologie, où on montre où est-ce qu'on peut trouver de l'eau, où on montre avec un piézomètre comment on mesure une nappe, pour que ces jeunes puissent transporter la parole autour d'eux dans le futur.
Ou alors là, vous a... oui, on vise vraiment le public qu'il faut, là, parce qu'en fait, c'est les nouvelles générations qui, elles, risquent d'être plus impactées et de faire changer un peu, peut-être, les habitudes de leurs parents, quoi.
Absolument, parce que si vous discutez, et comme je discute avec beaucoup de mes amis, on a toujours eu de l'eau, qu'est-ce que tu nous... Enfin, bon, je n'allais pas dire le terme exact, mais...
j'ai compris.
Qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton eau ? Alors, ceci dit, 2022 a été une année très difficile, et ça a été aussi une année de prise de conscience en disant, merde, c'est pas dans le marbre notre affaire d'eau, là. Alors finalement, il y a peut-être bien un problème. Donc, les mentalités évoluent un petit peu, mais ce chemin pédagogique ou d'autres actions qui sont menées par Valérie sur la communication sont très importantes pour toucher le public scolaire. Parce que c'est à partir de là qu'on arrivera à essaimer ou à poser la graine qui va bien pour les... Ben, pour le futur.
Oui, donc vous travaillez là-dessus, vous, avec Valérie, pour améliorer cela et mettre les gens en garde, même si on est en Haute-Loire, qu'à certains endroits, on n'a pas trop de pénurie d'eau, mais il y en a qui en ont. Hein, donc attention, on est tous solidaires et il faut faire les efforts voulus.
Alors d'autant plus que... je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais le changement climatique est à nos portes, on le voit, et donc va avoir un impact. Donc là aussi, on est en train de faire une étude prospective pour 2050 qui s'appelle Hydrologie, Milieu, Usage, Climat. C'est une étude prospective qui nous permettra d'avoir un outil d'aide à la décision pour le partage de l'eau, et indispensable pour toutes nos politiques, que ce soit l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les politiques agricoles à court, moyen et long terme. Donc ça permettra de prendre des orientations, disons, en essayant d'intégrer la montée des températures, l'impact que ça pourra avoir sur les récoltes, l'impact que ça peut avoir sur ce type de récolte, l'impact que ça peut avoir au niveau des animaux pour la partie agricole, mais au niveau de nous, lambda humain, qu'est-ce qu'on devra faire pour économiser notre eau. Voilà.
Ben écoutez,
je parle pas de l'industrie ou autre.
On en a bien parlé, je pense. On n'a peut-être pas tout dit, hein, mais c'est compliqué de tout parler. On a compris quand même ce qu'il fallait pas faire, hein, et qu'on était quand même dans une période... Alors, on reverra peut-être ça, on se reverra peut-être après l'été. On va laisser passer l'été pour voir s'il y a eu assez de pluviométrie ou s'il n'y en a pas eu assez. Et peut-être que vous aurez encore un peu plus d'indications sur la nappe phréatique de Chasse-Puzac.
Alors, on aura plus d'indications sur l'ensemble de la base d'eau du Devez.
D'accord.
Parce qu'on a collecté beaucoup de points d'information maintenant.
Ben écoutez, merci d'avoir avec nous, puis de nous avoir éclairé un peu sur cette gestion de l'eau. Je crois que c'est important.
À votre disposition.
Merci.
Sur un sujet qui est compliqué.
Oui.
Je vous tiens, j'en profite pour vous poser la question. Vous prévoyez de le diffuser quand ?
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera.